Chapitre 17. Le colonel Santa Croce. Grâce à la discrétion de M. Politi, qui nous avait permis de nous retirer de bonne heure, nous étions le lendemain sur pied et prêts à le suivre, lorsqu'il vint nous prendre à 6 heures. La chaleur, répercutée par les rochers nus sur lesquels nous marchions, avait été si étouffante la veille, que nous avions résolu d'y échapper autant que possible en nous mettant en campagne dès le matin. Nous sortîmes par la même porte que la veille, accompagnés de M. Politi et suivis de notre ami Ciotta, dont nous avions été bien tentés de nous débarrasser, mais qui, pareil au jardinier du mariage de Figaro, n'avait pas été si sot que de renvoyer de si bons maîtres. En attendant qu'il nous donnât des preuves de son érudition, il nous donnait des remarques de sa bonne volonté en portant le parasol, le tabouret et la boîte à couleurs de Jadin. La première trace d'antiquité que nous rencontrâmes fut des sépulcres creusés dans le roc même, comme j'en avais déjà rencontré de pareils à Arles et au village de Beau. Je laissai Jadin s'enfoncer avec M. Politi dans une profonde discussion scientifique, et je m'acheminai avec Ciotta vers un petit édifice carré d'une construction assez élégante, porté sur un soubassement et orné de 4 pilastres. Après avoir inutilement essayé de me rendre compte par ma propre science archéologique de l'ancienne destination de cet édifice, force me fut de recourir à l'érudition de Ciotta, et je lui demandai s'il avait une opinion sur cette ruine. « Certainement, Excellence, me dit-il, c'est la chapelle de Phalaris. »« La chapelle de Phalaris, répondis-je assez étonné de cette singulière alliance de mots. « Vous croyez ?»« J'en suis sûr, Excellence. » « Mais de quel Phalaris ?» demandai-je. Car au bout du compte, il pouvait y en avoir eu 2, et la réputation du premier pouvait avoir nuit à l'illustration du second. « Mais, reprit Ciotta, étonné de la question, mais du fameux tyran qui avait inventé le taureau des reins. « Ah ah, pardon, je ne le croyais pas si dévot. »« Il avait des remords, Excellence, il avait des remords, et comme le palais qu'il habitait était à quelques pas d'ici. » Il fit élever cette chapelle à proximité du susdit palais, pour n'avoir pas trop à se déranger quand il voulait entendre la sainte messe. Pardon, signor Cicerone, mais l'explication me paraît si judicieuse que je vous demanderai la permission de l'inscrire, séance tenante, sur mon album. Faites, Excellence, faites. En ce moment, Jadin nous rejoignit. Comme je ne voulais pas le priver de l'explication lumineuse que m'avait donnée Ciotta, je le laissai avec lui. Et je pris à mon tour M. Politi pour visiter le temple des géants, tandis que Jadin faisait en 4 coups de crayon un croquis de la chapelle de Phalaris. Le temple des géants n'est, à l'heure qu'il est, qu'un morceau de ruine. Et si, comme le dit Biscari, on avait retrouvé un triglyphe parmi ces ruines, on ne saurait pas même à quel ordre d'architectes cet édifice appartenait. Selon toute probabilité, ce temple, qui semblait bâti pour l'éternité, fut renversé par les barbares. En 1401, Fasello, le chroniqueur de la Sicile, dit avoir encore vu debout 3 des géants qui formaient les Cariatides. Ce sont ces 3 géants que la Girgenti moderne, en fille fière de sa race, a pris pour arme. Quelque temps après, un tremblement de terre les renversa, et aujourd'hui, de toute cette cour de colosses, comme dit la devise de la ville, il ne reste qu'un pauvre géant couché, dont on a rapproché les morceaux et qui peut donner encore, avec un tronçon des fameuses colonnes de ce temple, dans les canelures desquelles un homme pouvait se cacher, une idée de la grandeur du monument. Nous mesurâmes le géant de pierre. Il avait de 24 à 25 pieds, y compris ses bras ployés au-dessus de sa tête. Au reste, les contours en sont très frustres. Ses cariatides, selon toute probabilité, ayant été revêtus de stuc, et dans leur partie postérieure se trouvant adossés à des pilastres. Notre ami Ciotta avait bâti sur cette figure un système non moins ingénieux que celui qu'il nous avait développé sur la chapelle de Phalaris. Il pensait que ce géant était un des anciens habitants de la Sicile qui, ayant eu l'impudence de se laisser tomber dans une fontaine pétrifiante, avait eu le bonheur de s'y conserver intact jusqu'au jour où la fontaine, ayant été mise à sec par un tremblement de terre, on l'y avait retrouvé tel qu'il était encore aujourd'hui. Du temple des géants, nous n'eûmes qu'à traverser la voie antique pour nous trouver à celui d'Hercule. Celui-ci est encore plus maltraité que son voisin. Une colonne seule est restée debout. C'est le temple dont parle Cicéron à propos de la fameuse statue du fils d'Acmène. Si magnifique qu'il était difficile de rien voir de plus beau. Quo non facile dixerim quiquid vidis pulcherius. Aussi, lorsque Verès, qui l'avait trouvé à sa convenance, voulut s'en emparer, il y eut émeute, et les habitants d'Agrigente chassèrent à coups de pierre les messagers du proconsul romain. Ces ruines visitées, nous descendîmes par la porte d'or, et franchissant l'enceinte des murs, nous nous avançâmes vers un petit monument carré, que les uns assurent être le tombeau de Théron, et les autres celui d'un célèbre coursier. Au reste, les uns et les autres donnent de si puissantes preuves à l'appui de leurs assertions que notre Cicérone, embarrassé de se prononcer entre eux, nous dit, pour tout concilier, que ce sépulcre était celui d'un ancien roi agrigentin qui s'était fait enterrer avec un cheval qu'il aimait beaucoup. 300 pas plus loin sont deux colonnes enchâssées dans les murs d'une petite cassine. C'est tout ce qui reste du temple d'Esculape. La plaine au milieu de laquelle s'élève cette cassine s'appelle encore il Campo Romano. En effet, c'était à cette place que, dans la première guerre punique, campait, au dire de Polybe, une partie de l'armée romaine. Comme le soleil avec lequel nous avions fait, la veille, une si intime connaissance recommençait à nous faire les honneurs de la ville, qu'au dire de Pindare il ne daignait pas autrefois de chanter lui-même, nous nous privâmes des temples de Vulcain, de Castor et Pollux, et de la piscine creusée par les prisonniers carthaginois dans la vallée d'Acragas. Ciotta insista beaucoup pour nous y conduire, mais nous lui promîmes de le payer comme si nous l'avions vu, ce qui le ramena à l'instant même à notre sentiment. En rentrant à l'hôtel, nous trouvâmes le capitaine Arena qui nous attendait avec notre cuisinier. Nous nous étonnâmes de cette infraction aux lois de la police napolitaine qui défendait, on se le rappelle, au susdit Gamma de mettre pied à terre. Mais le pauvre diable avait tant prié qu'on l'éloignât de l'élément sur lequel il n'avait pas un instant de repos, et qui la veille encore avait pensé lui être si fatal, que le capitaine, touché de ses supplications, nous l'amenait pour nous demander si, malgré la défense faite à son endroit, nous voulions prendre sur nous de l'emmener par terre à Palerme. Le patient attendait notre décision avec une figure si piteuse que nous n'eûmes pas le courage de lui refuser sa requête. Au risque de ce qui pouvait en résulter, Kama fut donc, à sa grande satisfaction, réinstallé sur la terre ferme. 5 minutes après, notre hôte accourut pour nous demander si nous étions mécontents de notre dîner de la veille. Comme nous n'avions aucun motif de désobliger ce brave homme, qui avait véritablement fait ce qu'il avait pu, nous lui dîmes que, loin de nous en plaindre, nous en étions, au contraire, très satisfaits. Alors il nous pria de venir mettre le holà dans sa cuisine, où Kama mettait tous en dessus-dessous. Nous y accourûmes aussitôt et nous trouvâmes effectivement Kama au milieu de 5 ou 6 casseroles et demandant à grands cris de quoi mettre dedans. C'était une demande indiscrète qui avait blessé notre hôte. Nous fîmes comprendre à Kama que ses exigences étaient exorbitantes et nous l'invitâmes à laisser le cuisinier de la maison nous apprêter à son goût les 12 ou 15 œufs qu'il était parvenu à grand-peine à se procurer. Kama se retira en grommelant et nous ne pûmes le consoler qu'en lui promettant qu'il prendrait sa revanche pendant notre voyage d'Agrigente à Palerme. Le capitaine avait apporté tous nos effets et à tout hasard 100 de piastres. Mais comme ce que M. Politi nous avait dit de la route ne nous invitait pas à nous surcharger d'argent, nous le priâmes de remporter la susdite somme au bâtiment, où elle serait beaucoup plus en sûreté que dans nos poches. Nous avions, Jadin et moi, 50 d'onces, c'est-à-dire 700 ou 800 francs, et cela nous paraissait d'autant plus suffisant dans les circonstances actuelles que le capitaine nous promettait de nous avoir rejoints dans 10 de jours. Il avait bien eu un instant la crainte qu'un accident arrivé au Spéronard ne le forçât de s'arrêter quelques jours à Girgenti pour se procurer une ancre qui remplaça celle restée au fond de la mer. Mais Filippo avait tant et si bien plongé qu'il avait fini par dégager la dent de fer du rocher sous lequel elle avait mordu. Et alors, après avoir plongé 7 fois à la profondeur de 25 pieds, il était revenu à la surface de l'eau avec son ancre. Aussitôt, Pietro et Giovanni, qui l'attendait s'était jeté à la mer avec un câble. On avait passé le câble dans l'anneau et l'ancre avait été triomphalement hissée sur le bâtiment. Tout allant donc pour le mieux, nous prîmes congé du capitaine en lui donnant rendez-vous à Palerme. Aussitôt après le déjeuner qui, d'après le prospectus qu'on en avait vu, ne devait pas nous tenir longtemps, nous nous mîmes en quête des choses remarquables que pouvait nous offrir Girgenti elle-même. La liste était courte. Un magasin de vases étrusques fort incomplet et dont chaque pièce nous était offerte pour un prix triple de celui qu'elle nous eût coûté à Paris. Un petit tableau prétendu de Raphaël, mais tout au plus de Jules Romain, qui avait été volé puis rendu par l'entremise d'un confesseur et qui était déposé chez le juge, qui pourra bien en devenir le propriétaire définitif. Enfin, l'église cathédrale, privée pour le moment d'évêque, attendu que le dernier prélat étant mort, le roi de Naples touchant provisoirement ses revenus, qui sont de 30 000 onces, sa majesté sicilienne ne se pressait pas pour pourvoir aux bénéfices vacants. Ces différentes visites, toutes insignifiantes qu'elles étaient, ne nous conduisirent pas moins jusqu'au dîner, qui nous fut servi avec une profusion que nous avions rencontrée chez notre bon Gemellaro, mais que nous n'avions pas retrouvée depuis. Au dessert, la conversation retomba sur les voleurs. Ce sujet nous ramena tout naturellement à Salvatore, notre futur guide, et nous demandâmes à M. Politi quelques renseignements sur la façon dont la grâce de Dieu l'avait touché. Mais au lieu de nous répondre, notre hôte nous offrit de nous raconter une anecdote arrivée il y a 7 ou 8 ans à Castro Giovanni. Ne voulant pas lâcher la réalité pour l'ombre, nous acceptâmes aussitôt. Et sans autre préambule que de nous faire servir le café et d'ordonner qu'on ne vînt nous déranger sous aucun prétexte, M. Politi commença l'histoire suivante. Le 20 juillet 1826, à 6h du soir, la salle du tribunal de Castro Giovanni était non seulement encombrée de curieux, mais encore les rues avoisinantes regorgeaient d'un flot d'hommes et de femmes qui, n'ayant pu trouver place dans l'enceinte où l'on rendait la justice, attendaient dehors le résultat du jugement. C'est que ce jugement était de la plus haute importance pour toute la population du centre de la Sicile. L'accusé qui comparaissait à cette heure devant ses juges faisait, à ce qu'on assurait, partie de la bande du fameux capitaine Luigi Lanna, qui, se tenant tantôt sur la route de Catane, à Palerme, tantôt sur celle de Catane, à Girgenti, et quelquefois même sur les deux, dévalisait scrupuleusement tout voyageur qui avait l'impudence de prendre l'une ou l'autre de ces deux routes. Le seigneur Luigi Lanna était un de ces chefs de voleurs, comme on n'en trouve plus qu'en Sicile et à l'Opéra Comique, et qui s'élance sur les grands chemins pour redresser les abus de la société et remettre un peu d'égalité entre les faveurs et les disgrâces de la fortune. 20 personnes avaient eu affaire à lui, mais sur les 20 signalements donnés par elle, il n'y en avait pas 2 qui se ressemblassent. Au dire des uns, c'était un beau jeune homme blond de 24 à 25 ans et qui avait l'air d'une femme. Au dire des autres, c'était un homme de 40 à 45 ans, aux traits fortement accentués, au visage olivâtre et aux cheveux noirs et crépus. Il y en avait qui disaient l'avoir vu entrer dans les églises et y dire ses prières avec une componction à faire honte aux moines les plus fervents. D'autres lui avaient entendu proférer des blasphèmes à faire fendre le ciel et le tenaient pour un impie et pour un réprouvé. Enfin, il y en avait encore, mais c'était le plus petit nombre, il faut l'avouer, qui disait qu'il était plus honnête homme au fond que ceux qui le poursuivaient pour le faire pendre, et plus rigide observateur d'une simple promesse verbale que beaucoup de commerçants ne le sont d'une obligation écrite. Cela s'appuyait sur un fait qui prouvait qu'effectivement maître Luigi Lanna ne plaisantait pas à l'endroit de ses engagements. Voici l'événement sur lequel il basait la bonne opinion qu'ils avaient conçue et qu'ils émettaient touchant ce singulier personnage. Un jour qu'il était poursuivi, il avait trouvé asile chez un riche seigneur nommé le marquis de Villaba. En le quittant, Luigi, reconnaissant, lui avait promis que lui et les siens pouvaient désormais voyager en Sicile en toute sûreté. Confiant en cette promesse, le marquis de Villaba avait envoyé quelques jours après cet événement son intendant faire un paiement à Cefalù. Mais entre Polizzi et Colesano, l'intendant avait été arrêté par un voleur. Le pauvre diable avait eu beau dire qu'il appartenait au marquis de Villaba et que le marquis de Villab avait pour lui et les siens un sauf-conduit du capitaine, le bandit n'avait point écouté ses réclamations et avait laissé le pauvre intendant nu comme un ver. Se voyant dans l'impossibilité de continuer sa route, l'intendant était revenu sur ses pas et avait demandé l'hospitalité dans la première maison de Polizzi. De là, il avait écrit à son maître l'accident qui lui était arrivé, lui demandant ses instructions sur ce qui lui restait à faire. Le marquis de Villab, qui ne se souciait pas d'aller sommer l'âne de tenir la promesse qu'il lui avait faite, et à laquelle il avait manqué si promptement, était en train d'écrire au pauvre intendant qu'il eut à revenir au château, lorsqu'on lui remit deux sacs qu'un inconnu venait d'apporter pour lui de la part du capitaine Luigi Lan. Le marquis ouvrit les deux sacs. Le premier contenait la somme qui avait été volée à l'intendant, le second la tête du voleur. En même temps, l'intendant recevait dans la maison où il s'était réfugié, et par un autre messager inconnu, les habits dont il avait été dépouillé. À partir de ce jour, aucun bandit ne s'avisa plus de se frotter ni au marquis de Villab, ni à personne de sa maison. Or, comme nous l'avons dit, le 20 juillet 1826, on jugeait au tribunal de Castro Giovanni un homme accusé de faire partie de la bande de Luigi Lan, et que l'on soupçonnait d'avoir assassiné un voyageur anglais 3 mois auparavant, c'est-à-dire le 18 mai, entre Centorbi et Paterno. Comme l'anglais était mort 2 jours après des 4 coups de poignard qu'il avait reçus, il n'y avait pas moyen de convaincre le coupable par la confrontation. Mais avant d'expirer, le moribond, qui avait gardé pendant tout cet événement un sang-froid digne du pays où il était né, avait donné de son meurtrier un signalement tellement exact que grâce à ce signalement, on avait arrêté 6 semaines après le coupable. Quand nous disons le coupable, nous devrions dire simplement l'accusé, car les avis étaient fort partagés sur l'individu qui comparaissait devant le seigneur Bartolomeo, juge de Castro Giovanni. En effet, malgré la déposition de l'anglais mourant, malgré l'identité du signalement avec les traits de son visage, le prisonnier soutenait qu'il était victime d'une erreur de ressemblance, et que, le jour même où avait eu lieu l'assassinat, il était sur le port de Palerme, où pour le moment, il exerçait le métier de facchino. Malheureusement, le seigneur Bartolomeo, juge de Castro Giovanni, paraissait s'être rangé au nombre des personnes peu disposées à croire à cette dénégation. Ce qui laissait, la chose était facile à voir, infiniment peu d'espoir au pauvre diable, qui pour toute défense, arguait d'un alibi qu'il ne pouvait pas prouver. Les choses en étaient donc là, et l'on attendait de minute en minute le prononcé du jugement lorsqu'un beau jeune homme de 28 à 30 ans, revêtu d'un uniforme de colonel anglais, et suivi de 2 domestiques comme lui à cheval, entra à Castro Giovanni, venant du côté de Palerme, et s'arrêta à l'hôtel du Cyclope, tenu par maître Gaetano Pacca. Comme les voyageurs de cette qualité étaient rares à Castro Giovanni, maître Gaetano accourut lui-même à la porte, et ne voulut céder à personne l'honneur de tenir la bride du cheval de l'étranger, tandis que l'étranger mettait pied à terre. L'officier qui, comme nous l'avons dit, était suivi de 2 domestiques. Voulut d'abord s'opposer à cet excès de politesse, mais voyant que son hôte futur insistait, il ne voulut pas le contrarier pour si peu, mit pied à terre dans toutes les règles de l'équitation, et entra dans l'hôtel en fouettant légèrement avec sa cravache la poussière amassée sur ses bottes et sur son pantalon. « Je suis le très humble serviteur de votre excellence, » dit au colonel maître Gaétane, qui, ayant jeté la bride du cheval aux mains d'un des domestiques, était entré derrière l'étranger. Et je serai éternellement fier de ce qu'un seigneur du rang de votre excellence se soit arrêté à l'hôtel du Cyclope. Votre excellence vient sans doute de faire une longue route, et une longue route ouvre l'appétit. Que ferais-je servir à votre excellence pour son dîner ? Mon cher monsieur Pacca, dit l'étranger avec un accent maltais fortement prononcé, et d'un air de hauteur qui arrêta tout court la politesse un peu familière de maître Gaétane. Faites-moi d'abord le plaisir de répondre à une question que j'aurai à vous adresser, puis nous en reviendrons à la proposition dont vous avez la bonté de me faire. Je suis aux ordres de votre excellence, dit l'hôte du Cyclope. Très bien, je voudrais savoir combien il y a de 1000 de Castro Giovanni au château de mon honorable ami le prince de Paterne. Votre excellence ne compte sans doute pas faire une si longue route aujourd'hui, et surtout à l'heure qu'il est. Pardon, mon cher Pacca, reprit l'étranger avec le même ton railleur qu'on avait déjà pu remarquer dans l'accent qui accompagnait ses paroles. Mais vous ne vous apercevez pas que vous répondez à ma question par une autre question. Je vous demande combien il y a de milles d'ici au château du prince de Paterne. Comprenez-vous? 17 000, votre excellence. Très bien. Avec mon cheval, c'est l'affaire de 3 heures. Et pourvu que je parte à 8 heures du soir, je serai encore arrivé avant minuit. Préparez mon dîner et celui de mes gens, et faites donner à manger à nos montures. « Seigneur Dieu !» s'écria l'aubergiste. « Votre Excellence aurait-elle donc l'intention de voyager de nuit ? Et pourquoi pas ? Mais Votre Excellence doit savoir que les routes ne sont pas sûres. » L'étranger se mit à rire avec une indéfinissable expression de mépris, puis, après un instant de silence, « Qu'y a-t-il donc à craindre ? » demanda-t-il, en continuant de fouetter la poussière de son pantalon avec sa cravache. « Ce qu'il y a à craindre, Votre Excellence le demande ?»« Oui, je le demande. Votre Excellence n'a-t-elle point entendu parler de Luigi Lann ?»« De Luigi Lann ? Qu'est-ce que cet homme ?»« Cet homme, Excellence, c'est le plus terrible bandit qui ait jamais paru en Sicile. »« Vraiment, » dit l'étranger de son même ton goguenard. « Sans compter qu'en ce moment, il est exaspéré, » continua l'aubergiste. « Et je réponds bien qu'il ne fera quartier à personne. »« Et de quoi est-il exaspéré, maître Gaétane ? Voyons, contez-moi cela. »« De ce qu'on juge en ce moment un des hommes de sa bande. »« Où cela ? Ici même, Excellence. »« Sans doute ce drôle sera condamné. »« J'en ai peur, Excellence. » Et pourquoi en avez-vous peur, maître Gaétane ? Pourquoi, Excellence ? Parce que Luigi Lann est un homme à mettre pour se venger le feu aux quatre coins de Castro Giovanni. L'étranger éclata de rire. Puis-je savoir de quoi rit votre Excellence ? Demanda l'aubergiste tout stupéfait. Je ris de ce qu'un homme de cœur fait trembler 8 ou 10 000 lâches comme vous, répondit l'étranger avec un air plus méprisant que jamais. Et, continua-t-il après une pause d'un instant, vous croyez donc que cet homme sera condamné ? Je n'en fais pas de doute, Excellence. Je suis fâché de n'être pas arrivé plus tôt, reprit l'étranger, comme s'il se parlait à lui-même. Je n'aurais pas été si fâché de voir la figure que fera le drôle en entendant prononcer son jugement. Peut-être est-il encore temps, dit maître Gaétane. Et si votre Excellence veut se distraire à cela en attendant que son dîner soit servi, j'écrirai un petit mot au juge Bartolomeo, dont j'ai l'honneur d'être le compère, et je ne doute pas que sur ma recommandation, il ne fasse placer votre Excellence dans l'enceinte même des avocats. « Merci, mon cher monsieur Paca, » dit l'étranger en se levant et en s'avançant vers la porte. « Merci, mais ce serait probablement trop tard. J'entends un grand bruit de monde qui revient et sans doute le jugement est prononcé. » En effet, la foule qui 10 minutes auparavant se dressait autour du tribunal se répandait à cette heure dans les rues. Et comme un orage planant sur la ville, les mots « à mort » grondaient, répétés par 4 ou 5 000 voix. L'accusé, malgré ses dénégations réitérées, n'ayant pu produire aucun témoin à décharge, venait d'être condamné à être pendu. Le jeune colonel resta sur la porte jusqu'à ce que cette foule, qu'il regardait en fronçant le sourcil et en mordant sa moustache, fût écoulée. Puis, lorsque la rue fut, à l'exception de quelques groupes semés çà et là, redevenue solitaire, il se retourna vers l'aubergiste, qui se tenait respectueusement derrière lui, se haussant sur la pointe des pieds, et essayant de voir par-dessus son épaule. « Et quand croyez-vous que cet homme soit exécuté, mon cher monsieur Paca ?» demanda l'étranger. « Mais après-demain matin, sans doute, » répondit maître Gaétane. « Aujourd'hui le jugement, cette nuit la confession, demain la chapelle ardente, après-demain la potence. » « Et à quelle heure ?»« Vers les 8 heures du matin, c'est l'heure ordinaire. »« Ma foi, il me prend une envie, » dit le colonel. « Laquelle, excellence ?»« C'est... n'ayant pu voir juger ce drôle, de le voir au moins pendre. » Rien de plus facile. Votre Excellence peut partir demain matin, faire sa visite à son ami le prince de Paterne, et être de retour ici demain soir. Vous parlez comme un Saint-Jean bouche d'or, mon cher monsieur Paca, répondit le colonel en tirant hors de son uniforme rouge son jabot de Baptiste. Et je le ferai comme vous dites. Ainsi donc occupez-vous de mon dîner et de ma chambre. Tâchez que tout cela soit, je ne dirais pas bon, mais passable, comme vous m'en donnez le conseil. Je partirai demain matin et je reviendrai demain soir. Pendant ce temps-là, occupez-vous donc de m'avoir une bonne place pour regarder l'exécution. Une fenêtre, par exemple. Je la paierai ce qu'on voudra. Je ferai mieux que cela, Excellence. Que ferez-vous, mon cher monsieur Paca ? Votre Excellence sait qu'il est d'habitude que le juge assiste au supplice sur une estrade ? Ah, c'est l'habitude. Non, je ne le savais pas. Mais qu'importe, allez toujours. Eh bien, je demanderai au juge, dont je l'ai déjà dit, je crois. J'ai l'honneur d'être compère. Une place près de lui pour votre Excellence. À merveille, maître Gaetano. Et moi je vous promets, si vous me l'obtenez, de ne pas vérifier l'addition de votre carte et de m'en rapporter au total. Allons, allons, dit maître Gaetano. Je vois que tout cela peut s'arranger. Et votre Excellence, je l'espère, quittera ma maison satisfaite de l'hôte et de l'hôtel. J'en ai l'espoir, mon cher monsieur Paca. Mais en attendant le dîner, qui, j'en ai peur, se fera attendre. N'avez-vous rien à me donner à lire pour me distraire ? Si fait, Excellence, si fait, reprit maître Gaétan, en ouvrant une armoire où moisissaient quelques mauvais bouquins, dépareillés. Voici le guide du voyageur en Sicile par l'illustre docteur Francesco Ferrara. Voici deux volumes des poésies légères de l'abbé Melli. Voici le traité de la Gettatura par maître Nicolao Valletta. Voici l'histoire du terrible bandit Luigi Lana, orné de son portrait dessiné d'après nature. Ah, diable, mon cher hôte, donnez vite, je vous en prie, je suis curieux de voir quelle figure on lui a faite. Voilà, Excellence, voilà. Peste, mais savez-vous que c'est un fort vilain monsieur que votre ami Luigi Lana, avec ses grosses moustaches, ses yeux à fleur de tête, ses cheveux mal peignés, son chapeau en pain de sucre et ses pistolets à la ceinture? Eh bien, cette copie, si terrible qu'elle soit, n'est encore rien auprès de l'original. Vraiment, je puis l'affirmer à votre Excellence. Vous l'avez donc vu, mon cher monsieur Paca ? Demanda le jeune colonel en se balançant sur sa chaise et en regardant l'aubergiste de son air le plus goguenard. Non, Excellence, non pas moi. Mais j'ai logé de pauvres diables de voyageurs qui l'avaient rencontré pour leur malheur, eux, et qui m'en ont fait le portrait depuis les pieds jusqu'à la tête. Bah, la peur leur aura troublé la vue, et ils auront exagéré. En tout cas, mon cher hôte, maintenant que j'ai ce que je désirais, occupez-vous de mon dîner, je vous prie, tandis que je verrai si les actions de ce terrible personnage correspondent à sa figure. À l'instant, Excellence, à l'instant. Le voyageur fit un signe de la tête indiquant qu'il savait parfaitement ce qu'il devait penser du subito italien, et s'allongeant sur deux chaises, il s'apprêta avec une nonchalance toute méridionale à commencer sa lecture. Sans doute, malgré l'espèce de mépris avec lequel il avait ouvert le livre, les aventures qu'il contenait présentèrent quelques intérêts à l'esprit du colonel. Car lorsque maître Gaétan rentra au bout d'une demi-heure, il le retrouva dans la même posture et livré à la même occupation. Si le colonel avait bien employé son temps, maître Gaétan n'avait pas perdu le sien. Après avoir causé avec le maître, il avait fait causer les domestiques et il avait appris d'eux que le voyageur, qu'il avait l'honneur d'héberger en ce moment, était un jeune Maltais qui, jouissant d'une fortune de 100 000 livres de rente, avait acheté un régiment en Angleterre. Restait à savoir le nom de cet étranger. Mais le propriétaire de l'hôtel du Cyclope avait trouvé un moyen tout simple de le connaître. Il apportait, selon l'habitude italienne, son registre à signer au jeune voyageur. Le colonel, entendant quelqu'un qui s'apprêtait près de lui, leva les yeux et aperçut son hôte. En voyant le registre, il devina l'intention, tendit la main, prit une plume, et à l'endroit que lui indiquait le doigt de maître Gaétan, il écrivit ces trois mots. « Colonel Santa Croce ». Maître Gaétan était très satisfait. Il savait tout ce qu'il désirait savoir. « Maintenant, dit-il, quand votre Excellence voudra se mettre à table, la soupe est servie. »« Ah ah !» dit le jeune colonel. « Que ne m'avez-vous dit cela plus tôt, mon cher monsieur Paca ? Je vous aurais épargné la peine de déranger votre couvert. » Comment déranger mon couvert, Excellence? N'est-il point dressé à votre goût? Si fait, mon cher monsieur Paca, si fait. Mais j'ai l'habitude de m'essuyer les mains avec de la toile de Hollande et de manger dans de l'argenterie. Ce n'est point que vos torchons ne soient fort propres et vos couverts d'étain parfaitement entamés. Mais avec votre permission, je ne m'en servirai pas. Appelez mon domestique. Maître Gaétan obéit à l'instant même, quoiqu'un peu humilié de l'affront que lui faisait le colonel. Mais comme il lui avait promis de ne pas vérifier l'addition, il se promit à part lui de porter l'affront sur sa carte. 5 minutes après, le valet de chambre entra avec un nécessaire grand comme une malle et en tira de la vaisselle plate, 2 ou 3 couverts d'argent et un gobelet de vermeil, le tout aux armes du colonel. Le colonel attaqua le dîner de maître Gaétan avec l'air dédaigneux d'un prince. Goûta à peine de chaque plat, puis, après le repas, voyant que le temps était beau et qu'il faisait un clair de lune superbe, il s'apprêta à aller faire un tour par la ville. Maître Gaétan offrit de l'accompagner, mais le colonel lui répondit qu'il préférait être seul. Néanmoins, comme Maître Gaétan était fort curieux de sa nature, il sortit 10 minutes après le colonel, sous prétexte d'aller se promener lui-même, mais dans le fait pour voir s'il ne le rencontrerait pas. Cependant, quoiqu'il n'y eut pas 2 ou 3 rues principales à Castro Giovanni, l'attente du digne aubergiste fut trompée, et il ne vit rien qui ressemblât à l'allure décidée et hautaine du jeune voyageur. En passant devant la prison, il vit entrer un pauvre moine de l'ordre de Saint-François. L'homme de Dieu venait pour préparer le condamné à mort. Le colonel ne rentra qu'à minuit. Maître Gaétan eût bien voulu lui demander ce qu'il avait trouvé d'assez curieux à Castro Giovanni pour être resté dehors jusqu'à une pareille heure. Mais, comme il ouvrait la bouche pour faire cette question, le jeune homme laissa tomber sur lui d'un air si dédaigneux l'ordre de le faire éveiller à 6 heures du matin que Maître Gaétan sentit la voix s'éteindre dans sa bouche et s'inclina en signe d'obéissance, sans répondre une seule parole. Quant au colonel, il s'enferma avec son valet, qui ne sortit de sa chambre qu'à 1 heure du matin. À 7 heures du matin, le colonel, après avoir pris une tasse de café noir seulement, partait, disait-il, pour le château du prince de Paterne, n'emmenant avec lui que son valet de chambre, et laissant le second domestique pour garder les bagages et rappeler à Maître Gaétan la promesse qu'il lui avait faite de lui retenir une place près du juge pour voir l'exécution. Ce n'était pas chose commune à Castro Giovanni qu'une exécution. Aussi, la journée qui précéda la mort du pauvre condamné fut-elle fort agitée. Chacun courait par les rues, tandis que les cloches sonnaient et c'était à qui aurait quelques nouvelles, par le juge ou par le geôlier. On pensait que le coupable, n'ayant plus d'espérance d'adoucir la rigueur de son supplice que par le repentir qu'il montrerait, ferait des révélations et que l'on saurait ainsi quelque chose de positif, et sur lui et sur ce terrible Luigi Lana, son capitaine. L'attente fut trompée. Non seulement le condamné ne fit aucune révélation, mais au contraire, il continuait à protester de son innocence, répétant sans cesse que, le jour même de l'assassinat, il était à Palerme, c'est-à-dire à près de 150 milles du lieu où il avait été commis. Le confesseur lui-même n'avait pas pu en tirer autre chose, et le vénérable moine était sorti de la prison en disant qu'il avait bien peur que la justice des hommes, croyant punir un coupable, ne fît un martyr. La journée s'écoula ainsi au milieu des discussions les plus animées sur la culpabilité ou l'innocence du condamné. Puis, le soir, vit s'illuminer les fenêtres de la chapelle ardente dans laquelle il devait passer la nuit. À 10 heures du soir, le même moine qui était déjà venu le consoler dans sa prison fut introduit dans la chapelle et ne quitta le prisonnier qu'à 11h30. Après son départ, le condamné, qui avait été fort agité toute la journée, parut tranquille. À minuit, le colonel rentra avec son valet de chambre à l'hôtel du Cyclope et, trouvant Maître Gaétan qui l'attendait, recommanda d'abord qu'on eût grand soin de ses chevaux, qui venaient de faire une longue course. Puis il s'informa si la commission dont son hôte s'était chargé était faite à sa satisfaction. Maître Gaétan répondit que son compère le juge avait été trop heureux de faire quelque chose qui fût agréable à son excellence et qu'il aurait pour le lendemain, près de lui sur l'estrade même, la place qu'il désirait. Durant toute la nuit, les cloches sonnèrent pour rappeler aux bonnes âmes qu'elles devaient prier pour le patient. Le lendemain, dès 5 heures, les rues qui conduisaient de la prison au lieu du supplice étaient encombrées de curieux. Les fenêtres présentaient une muraille de tête et les toits même craquaient sous les spectateurs. À 7 heures, le juge vint prendre place sur l'estrade avec les 2 greffiers, le capitaine de nuit et le commissaire. Comme le lui avait promis Maître Gaétan, un siège était réservé près du juge pour le colonel. À 7h30, il arriva, remercia fort gracieusement et d'un air qui sentait d'une lieue son grand seigneur, le juge de sa complaisance, et ayant regardé pour voir s'il n'aurait pas trop de temps à attendre l'heure à une magnifique montre tout enrichie de diamants, il s'assit à la place d'honneur au milieu des autorités de la ville de Castro Giovanni. À 8 heures, les cloches sonnèrent avec un redoublement d'onction. Elles indiquaient que le condamné sortait de la prison. Au bout de quelques minutes, une rumeur croissante annonça l'approche du condamné. En effet, bientôt, on vit paraître le bourreau, qui le précédait à cheval, puis 4 gardes qui marchaient derrière le bourreau, puis le condamné lui-même, à cheval sur un âne, la tête tournée vers la queue, et marchant à reculons, afin qu'il ne perdît point de vue le cercueil que portaient derrière lui les frères de la miséricorde, puis enfin toute la population de Castro Giovanni qui fermait la marche. Le condamné semblait écouter d'une façon fort distraite les exhortations du moine qui l'accompagnait. On disait généralement que cette distraction venait de ce que le moine n'était pas le même qui l'était venu visiter dans sa prison. En effet, au moment où on s'attendait à voir arriver ce moine, il n'avait point paru, et l'on avait été obligé d'en courir chercher un autre, pour que le condamné ne mourût pas privé des secours de la religion. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons dit, le pauvre diable paraissait fort inquiet et jetait à droite et à gauche, sur la foule, des regards qui indiquaient la situation de son esprit. De temps en temps, même, contre l'habitude des condamnés, qui s'épargnent ce spectacle le plus longtemps possible, il se retournait vers la potence, sans doute pour calculer le temps qu'il lui restait à vivre. Tout à coup, arrivé devant l'estrade du juge et au moment où le confesseur l'aidait à descendre de son âne, le condamné jeta un grand cri et montrant d'un signe de tête, car ses mains étaient liées, le colonel assis près du juge, « Mon père, s'écria-t-il en s'adressant au moine, mon père, voilà un seigneur qui, s'il le veut, peut me sauver. Lequel ? Demanda le moine avec étonnement. « Celui qui est près du juge, mon père. » Celui qui a un uniforme rouge et des épaulettes de colonel. C'est le bon Dieu qui l'amène sur ma route, mon père. Miracle, miracle. » Et chacun se mit à répéter « miracle » après le condamné sans savoir encore de quoi il s'agissait, ce qui n'empêcha pas le bourreau de s'approcher du patient afin de commencer son office. Mais le confesseur se plaça entre eux deux. « Arrêtez, dit-il. Au nom de Dieu, arrêtez, juge. » continua le moine. « Le patient dit qu'il reconnaît assis près de toi un témoin qui peut lui sauver la vie, en attestant qu'il est innocent. Juge, je t'adjure d'entendre ce témoin. » « Et quel est ce témoin ? » demanda le juge en se levant sur l'estrade. « Le colonel Santa Croce. Le colonel Santa Croce. Le colonel Santa Croce. » cria le patient. « Moi ? » dit avec étonnement le colonel en se levant à son tour. « Moi, mon ami ? Vous vous trompez assurément. » Et quoi que vous sachiez mon nom, moi, je ne vous connais pas. Vous ne le connaissez pas, hein ? Demanda le juge. Aucunement, répondit le colonel après avoir regardé avec plus d'attention encore que la première fois le condamné. Je m'en doutais, reprit le juge en secouant la tête. C'est une des ruses habituelles de ces misérables. Puis il se rassit en faisant signe au bourreau de continuer son office. Colonel, s'écria le patient, colonel, vous ne me laisserez pas mourir ainsi. Quand d'un mot, vous pouvez me sauver. « Colonel, laissez-moi seulement vous adresser une question. »« Oui, oui, » cria la foule, « c'est juste. Laissez parler le condamné, laissez-le parler. »« Monsieur le juge, » dit le colonel, « je crois que l'humanité exige que nous nous rendions à la prière de ce malheureux. S'il veut nous tromper, au reste, nous nous en apercevrons bien, et alors il n'aura à retarder sa mort que de quelques minutes. »« Je n'ai rien à refuser à votre excellence, » dit le juge. « Mais vraiment, ce n'est pas la peine, croyez-moi, colonel, de lui donner cette satisfaction. » « Je vous la demande pour ma propre conscience, monsieur, » dit le colonel. « J'ai déjà dit à votre excellence que j'étais à ses ordres, » reprit le juge. Puis se levant, « Garde, » ajouta-t-il, « amenez le condamné. » On amena ce malheureux, il était pâle comme la mort, et tremblait de tous ses membres. « Eh bien, coquin, » dit le juge, « te voilà en face de son excellence, parle donc. »« Excellence, » dit le condamné, « ne vous souvient-il pas que le 18 mai dernier, vous avez débarqué à Palerme, venant de Naples, « Je ne saurais préciser le jour aussi exactement que vous le faites, mon ami. Mais la vérité est que c'est vers cette époque que j'abordais en Sicile. Ne vous souvient-il pas, Excellence, du facchino qui porta vos malles sur une petite charrette du port à l'hôtel des Quatre Cantons, où vous logeâtes ?»« Je logeais, effectivement, hôtel des Quatre Cantons, » répondit le colonel. « Mais j'ai, je l'avoue, entièrement oublié la figure de l'homme qui m'y a conduit. » « Mais ce que vous n'avez pas pu oublier, Excellence, c'est qu'en passant devant la porte d'un serrurier, un de ses apprentis qui sortait, tenant une barre de fer sur son épaule, m'en donna un coup contre la tête et me fit cette blessure, tenez. » Et le condamné avança la tête, montra effectivement une cicatrice à peine fermée encore et qui lui marquait le front. « Oui, vous avez raison, parfaitement raison, » dit le colonel, « et je me rappelle cette circonstance comme si elle venait d'arriver à l'instant même. » « Et à preuve, » continua avec joie le condamné, qui se voyant reconnu, commençait à reprendre espoir. « À preuve que, comme un généreux seigneur que vous êtes, au lieu de me donner 6 carlins que je vous avais demandé, vous me donnâtes 2 onces. » tout cela est l'exacte vérité, dit le colonel en se retournant vers le juge. Mais nous allons être mieux renseignés encore. J'ai sur moi le portefeuille où j'inscris jour par jour ce que je fais. Ainsi, il me sera facile de m'assurer si cet homme ne nous donne pas une fausse date. Cherchez, cherchez, colonel, dit le condamné. Maintenant je suis sûr de mon affaire. Le colonel ouvrit son portefeuille, puis arrivé à la date indiquée, il lut tout haut. Aujourd'hui, 18 mai, j'ai abordé à Palerme à 11h du matin. Pris sur le port, un pauvre diable qui a été blessé en portant mes malles. Logé à l'hôtel des quatre cantons. Voyez-vous, s'écria le condamné. Ma foi, monsieur le juge, dit le colonel en se retournant vers maître Bartholoméo, si c'est vraiment le 18 mai que l'assassinat, comme le constate mon album, il a été blessé à mon service. Or, comme il ne pouvait être à la fois à Palerme et à Centorbi, il est nécessairement innocent. Innocent, innocent, cria la foule. Oui, innocent, mes amis, innocent, dit le condamné. Je savais bien que Dieu ferait un miracle en ma faveur. Miracle, miracle, cria la foule. Eh bien, dit le juge, nous allons le faire reconduire en prison, et nous procéderons à une autre enquête. Non, non, libre, libre à l'instant même, cria le peuple. Et à ces mots, une partie de la foule, se ruant vers l'estrade, enleva le condamné et lui délia les mains, tandis que l'autre renversait la potence et poursuivait le bourreau à coups de pierre. Quant au colonel, il fut reporté en triomphe à l'hôtel du Cyclope. Toute la journée, Castro Giovanni fut en fête, et lorsque le colonel quitta la ville vers midi, il lui fallut fendre à grand-peine avec son cheval les flots du peuple, qui lui baisait les mains en criant « Vive le colonel Santa Croce, vive le sauveur de l'innocent !» Quant au condamné, comme chacun voulait lui parler et entendre de sa propre bouche le récit de son aventure, ce ne fut que vers le soir qu'il se trouva avoir quelque peu de liberté. Il en profita aussitôt pour enfiler une ruelle que son peu de largeur rendait plus sombre encore. Puis, par cette ruelle, il atteignit la porte de la ville. Puis, une fois hors de la ville, il gagna à toutes jambes une gorge de la montagne où il disparut. Le lendemain, le juge reçut de Luigi Lana une lettre dans laquelle le chef de bandits le remerciait de la complaisance qu'il avait eue de lui offrir un siège sur sa propre estrade. Il le pria en outre de présenter ses compliments à son compère, maître Gaetano, propriétaire de l'hôtel du Cyclope. Mais tout libre qu'était devenu le condamné, l'impression produite sur son esprit par l'aspect de la potence, à laquelle il avait pour ainsi dire touché du doigt, avait été si réel qu'il résolut, malgré les exhortations de ses camarades, d'abandonner la vie qu'il avait menée jusque-là et de se réconcilier avec la police. Le religieux qui l'avait accompagné dans le trajet de la prison à l'échafaud fut l'intermédiaire entre lui et l'autorité. La prière fut transmise au vice-roi et comme le bandit ne demandait que la vie sauve, promettant d'être à l'avenir un modèle de probité. Après quelques pourparlers entre le moine et le vice-roi, sa demande lui fut accordée, à cette seule condition qu'il ferait amende honorable, pieds nus, et le corps ceint d'une corde. Cette cérémonie eut lieu à Palerme, à la grande édification des fidèles. Voilà ce qui arriva à Castro Giovanni le 20 juillet de l'an de grâce 1826. « Et depuis lors, demandai-je à M. Politi, qu'est devenu, s'il vous plaît, cet honnête homme ? Il a pris le nom de Salvatore, sans doute en mémoire de la façon miraculeuse dont il a été sauvé, s'est fait muletier, afin, comme il s'y était engagé, de gagner sa vie d'une façon honorable, et, si ce que je vous ai raconté ne vous donne pas une trop grande défiance, il aura l'honneur d'être demain matin votre guide de Girgenti à Palerme. »